accueillie par notre consoeur de la rédaction germanophone, Christine Seuss. Et concernant le Sahel, 9 civils ont été tués dimanche dans 3 villages de la région de Tillabéri, dans la zone dite des trois frontières au Niger. Des djihadistes présumés seraient les auteurs de ce massacre. C'est ce qu'on a appris aujourd'hui du gouvernement nigérien qui affirme que plusieurs dizaines de terroristes, selon ses termes, ont été tués lors des opérations de représailles. C'était dans l'air depuis plusieurs jours. Le président ukrainien a annoncé le remplacement de son commandant en chef des armées, Valéry Zaluzhny. Il pourrait cependant rester dans l'équipe présidentielle. Le militaire a reconnu que la stratégie de l'Ukraine devait changer et s'adapter pour combattre la Russie. Le général Sirski lui succède. Dans la bande de Gaza, l'ONU parle de crimes de guerre en évoquant les destructions massives commises par les Israéliens dans la zone frontalière à Gaza pour créer une zone tampon. Ce n'est pas justifié par des impératifs militaires et c'est exécuté de manière arbitraire. C'est ce qu'a fait savoir le haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l'homme. Le Pakistan retrouve peu à peu le téléphone. Toutes les lignes Internet avaient été coupées aujourd'hui pendant les élections législatives. 7 membres des forces de sécurité ont été tués lors du scrutin dans 2 attaques distinctes dans le Nord-Ouest et au Baloutchistan. Le futur gouvernement, qui pourrait bien être dirigé par Nawaz Sharif, devra composer avec la colère des partisans d'Imran Khan, ancien Premier ministre, actuellement incarcéré dans l'incapacité de se présenter. C'est ce que nous explique Didier Chaudet, chercheur associé à l'IFEAC, l'Institut français d'études sur l'Asie centrale.
La famille Sharif, ils étaient à l'époque l'outil de l'armée et l'outil de la droite, y compris de la droite proche d'une certaine logique islamiste. Ils représentent une certaine droite conservatrice pro-business qui était restée proche des Américains, qui en même temps est proche des pays du Golfe. En fait, ils représentent une certaine stabilité qui plaît à beaucoup de monde, en tout cas chez les élites pakistanaises et chez un certain nombre d'acteurs internationaux à Riyad, à Washington. C'est un profil qui est entre guillemets acceptable. Mais en fait, après les élections, les choses ne seront pas totalement réglées. Si un certain nombre de personnes qui soutiennent Imran Khan sont vraiment agacées par le résultat, ils le feront savoir. Le prochain pouvoir va devoir prendre en compte cette critique radicale du statu quo au Pakistan de la part d'une partie de la population. Donc, stabilité, certes, qu'un certain nombre de forces veulent, y compris que ce soit du côté Bhutto, du côté Sharif ou de l'armée, mais il va falloir répondre à cet agacement populaire.
Voilà, Didier Chaudet, des propos recueillis par Alexandra Sirgan. L'Irak, ulcéré par la dernière frappe américaine au cœur même de Bagdad hier soir, frappe qui a tué un haut commandant des brigades du Hezbollah, un groupe pro-iranien responsable d'attaques contre des soldats américains. Le gouvernement irakien parle d'un assassinat, estimant que la coalition internationale anti-djihadiste outrepasse totalement les raisons et les objectifs pour lesquels elle se trouve en Irak. Condamnation également de la part de l'Iran, qui juge que cette attaque de drones américaines était une menace pour la paix et la sécurité. Direction maintenant le Brésil, où l'ancien président Jair Bolsonaro est interdit de quitter le territoire. Il a été visé aujourd'hui par une opération policière dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d'État ayant culminé avec les émeutes du 8 janvier 2023 à Brasilia. Les précisions de Jean-Mathieu Albertini.
Les ennuis continuent pour le camp Bolsonaro. La vaste opération appelée Tempus Veritatis se rapproche de manière décisive de l'ex-président et secoue toute la structure derrière la tentative de coup d'État du 8 janvier 2023. Car cette fois, la police fédérale, qui s'appuie en partie sur les révélations fournies par un proche de Bolsonaro arrêté l'an passé, vise les organisateurs. Ce n'est pas juste une opération de plus, car parmi les personnes arrêtées, il y a un très proche conseiller de Bolsonaro, mais surtout des militaires haut gradés. D'autres militaires ont été visés par des perquisitions, comme son candidat au poste de vice-président, l'ancien dirigeant des services de renseignement ou les chefs d'état-major de l'armée de terre et de la marine. Tout cela est une première dans un pays où l'influence de l'armée sur la politique reste forte. Également visé, Jair Bolsonaro doit remettre son passeport aux autorités et n'a plus le droit de quitter le territoire, tandis que le président de son parti a été arrêté pour port d'armes illégales. À Rio de Janeiro, Jean-Mathieu Albertini pour Radio Vatican.
Alors qu'Haïti est toujours secoué par de violentes manifestations pour demander le départ du chef du gouvernement, Ariel Henry, les évêques du pays invitent les Haïtiens à ne pas céder à la violence. Dans une note publiée aujourd'hui, ils invitent aussi le Premier ministre à se rendre compte de la gravité de la situation actuelle et à répondre aux aspirations de la population. Le sang et les larmes ont assez coulé à travers les assassinats, les kidnappings et les viols perpétrés au cours de ces 3 dernières années. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera demain matin à 8h30 heure de Rome. Très bonne soirée à toutes et à tous.
Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Vous retrouvez maintenant La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, éduquer avec Vanessa Patini, pédagogue de la religion, et Xavier Dufour, président de la Communion des éducateurs chrétiens.
Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de formation et de réflexion. C'est la rentrée des classes et comme souvent, votre émission de formation s'intéresse justement à la formation. Cette année, un mot, éduquer. C'est déjà une question à soi seul. Comment éduquer chrétiennement dans un monde aux traditions religieuses, spirituelles et philosophiques aussi variées? Déjà, vous le pressentez, les questions sont nombreuses. Faut-il faire du catéchisme, quitte à heurter les opinions de chacun, ou faut-il travailler les valeurs humaines? N'y a-t-il pas quelques connaissances explicites à apporter? Et puis, quel est le profil de la bonne éducatrice ou du bon éducateur chrétien? Et enfin, la question la plus importante, pourquoi l'Église se préoccupe-t-elle tant d'éducation et quel individu souhaite-t-elle former. Des questions essentielles, on le voit, que je vais poser à mes deux invités. Vanessa Patini, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous êtes pédagogue de la religion, vous êtes maître assistante, même en pédagogie de la religion, à la Haute École Vinci, à Louvain-la-Neuve, en Belgique. Et c'est important parce qu'on va essayer d'avoir un dialogue transnational, puisque le deuxième invité, c'est vous, Xavier Dufour, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur chez les Maristes à Lyon. Vous êtes professeur de maths, de philo et de culture religieuse. Et vous êtes également le président de la Communion des éducateurs chrétiens. Alors, comme vous êtes l'un et l'autre issus d'horizons différents, qu'il y a des traditions différentes, je vais vous demander peut-être d'abord de vous présenter. Alors, peut-être vous, Vanessa Patini. Déjà, qu'est-ce que c'est que... D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une haute école? Commençons par le début. En particulier les Français ne savent pas forcément ça, et les Suisses, et puis tous les gens venus du continent africain ne savent pas forcément. Et puis, qu'est-ce que c'est que la pédagogie de la religion?
Alors, en Belgique, donc, à la suite des études secondaires, il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aux jeunes, dont l'université, par exemple, mais aussi les hautes écoles. Et les hautes écoles ont des propositions de formation qui sont plus courtes, en général, que l'université. Mmh. Et donc, moi, je participe notamment à une haute école qui forme les futurs instituteurs, institutrices et enseignants de l'enseignement secondaire inférieur, c'est-à-dire les 12-15 ans environ.
Dans le système français, c'est ce qu'on appelait autrefois les écoles normales.
Voilà. C'est notre ancien nom également.
Voilà. Alors, du coup, vous enseignez la pédagogie de la religion. Ça, il faut expliquer pourquoi.
Voilà. Alors, en Belgique, nous avons donc les enseignants dans les écoles fondamentales et secondaires qui forment les jeunes aux cours de religion. Mmh. Et donc, pour former les jeunes aux cours de religion, bien, les enseignants sont eux-mêmes formés à enseigner la religion. Et donc, nous avons des cours de pédagogie de la religion, de didactique de la religion. Et donc, ce ne sont pas des cours où on forme les futurs enseignants en termes de théologie en tant que telle, même s'il y a une part de théologie, évidemment, mais c'est surtout la formation des enseignants de comment enseigner la religion aux jeunes aujourd'hui.
Pour bien qu'on comprenne, ça veut donc dire que tous les petits Belges, quel que soit le système dans lequel ils viennent, vont avoir des cours de religion ou c'est un peu plus compliqué?
Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Ouais. Donc, en Belgique, nous avons deux réseaux, un réseau officiel et un réseau libre. Mmh. Alors, le réseau libre est essentiellement catholique, même si nous avons des écoles non confessionnelles ou des écoles juives ou musulmanes, très très peu, mais on en a quand même. Et dans l'enseignement officiel, les élèves doivent faire un choix entre un cours de religion, d'une religion reconnue en Belgique, dont la religion catholique, soit un cours de morale ou un cours de philosophie et citoyenneté. Et donc ça signifie qu'en Belgique, on a environ 60% des jeunes dans l'enseignement secondaire qui sont dans l'enseignement catholique. Mmh. Et donc, si on ajoute à cela ceux qui ont fait le choix du cours de religion catholique dans l'enseignement officiel, on a environ 7 jeunes sur 10 qui suivent un cours de religion dans leur scolarité du secondaire.
Alors ça peut vous faire rêver, Xavier Dufour.
Oui.
Alors, le système français, maintenant, et expliquez-nous ce que vous faites.
Le système français, quant à l'enseignement public, ne donne pas de place à un enseignement des religions ou à un enseignement religieux. pour diverses raisons que je trouve pour ma part un peu regrettables, mais accorde une place à ce que l'on appelle le fait religieux, c'est-à-dire que chaque discipline, en tout cas au moins les humanités, l'histoire, le français, la philo, comporte des données religieuses qu'il s'agit d'expliciter aux élèves. Alors, on voit apparaître dans les programmes quelques-unes de ces données, par exemple la naissance de l'islam ou du christianisme, etc. À vrai dire, c'est très peu de choses, les professeurs ne sont pas formés, donc autant le dire, c'est assez pauvre. Du côté de l'enseignement privé sous contrat, qui représente environ 18% des élèves, et ce qui est de même principalement un enseignement catholique. Alors là, il y a une grande variété de propositions, puisqu'il peut y avoir des cours de culture religieuse, voire de culture chrétienne. Il y a des nuances que j'expliquerai peut-être plus tard. Dans certains établissements, alors, dont le mien, c'était une de mes raisons de mon engagement chez les Maristes, c'est qu'il y a une prise au sérieux très forte de la culture religieuse, puisque nous avons coordonné des collections de livres depuis 40 ans maintenant. Et voilà, chaque élève a une heure de culture religieuse par semaine. Cette culture ne suppose pas qu'il soit croyant, mais elle lui donne à connaître le fait religieux et plus particulièrement le fait religieux chrétien. Notre conviction, qui devrait être partagée par tout enseignant, c'est que seule la connaissance rend libre et l'ignorance ne rend jamais libre. Voilà.
Et donc ce mouvement de communion des éducateurs chrétiens, qu'est-ce que c'est aussi?
Parce que alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu parallèle à mon engagement de quotidien d'enseignant. C'est un mouvement qui est né au moment du jubilé de l'an 2000, où on s'est aperçu qu'il y avait un vrai déficit de réflexion sur l'éducation dans l'Église aujourd'hui. L'idée de ce mouvement, ça a été de mettre en réseau des enseignants chrétiens du public, du privé, et aussi des éducateurs qui ne sont pas des enseignants, des éducateurs spécialisés, des responsables de mouvements, pour vivre des temps forts, pour se ressourcer dans la formation, dans l'amitié, dans la prière aussi. Et voilà, alors de façon très concrète, personnellement, par exemple, j'anime une session d'enseignants à la fin juillet, qui est à la fois une session de détente, de formation, de vie spirituelle. Voilà.
Et donc vous faites un peu de pédagogie, enfin c'est un peu le même. Vous faites de la formation de formateurs d'une certaine façon.
Pas tout à fait, parce que ce qu'on cherche surtout, c'est à revivifier, j'allais dire, l'élan spirituel qui nous conduit à être à la fois des enseignants et à la fois des chrétiens. Donc on va pas faire de didactique, on va pas faire de pédagogie en tant que telle, mais on va essayer de se redire nos raisons d'enseigner en tant que chrétiens, y compris dans l'enseignement public, parce que c'est très important qu'il y ait des chrétiens dans l'enseignement public, et éveiller aussi à notre formation, personnelle en particulier, tout ce qui est de l'ordre de l'anthropologie biblique, qui, moi, me paraît une clé, en fait, pour notre engagement d'enseignant chrétien.
Alors, en vous écoutant, je pense que le plan va être assez simple. On va d'abord se demander pourquoi... qu'est-ce qu'on souhaite, qui on souhaite former, pourquoi un enseignement sur les valeurs chrétiennes, ou explicitement, implicitement, on verra toutes ces choses-là, et puis peut-être aussi est-ce qu'il y a une pédagogie spécifiquement chrétienne, et puis on essaiera de se demander justement l'autre côté, les enseignants, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien et enseignant, ou ne pas être chrétien et enseigner quand même la religion. Alors peut-être une première question. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on souhaite ? Qu'est-ce que vous pouvez discerner ? Je sais que vous avez beaucoup réfléchi là-dessus, de ce souhait d'une éducation, d'un cours de religion, d'une éducation chrétienne. Alors, est-ce que c'est éducation chrétienne ? Est-ce que c'est cours de religion ? Après, on va en parler. Mais pourquoi est-ce que c'est important ?
Alors, je pense que c'est important de travailler ces questions religieuses avec les jeunes aujourd'hui.
Oui.
Alors, j'ai effectivement dit qu'il y avait 7 élèves sur 10 qui suivaient le cours de religion, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous croyants non plus.
Absolument.
Et oui. Donc ça, c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, les cours de religion sont proposés à des élèves qui sont croyants pour certains, qui sont croyants d'une autre confession pour d'autres, ou qui ne sont pas croyants pour les derniers. Alors, ce qui signifie que dans nos cours de religion, on doit aborder les questions religieuses en tenant compte de cela.
Oui.
Et donc c'est important, me semble-t-il, de ne pas considérer que l'enseignement de la religion qu'on donne aux élèves aujourd'hui est quelque chose qui leur arrive sur une page blanche, j'ai envie de dire.
Oui.
C'est-à-dire que ces élèves, ils ont des connaissances, ils ont un vécu, ils ont des expériences, et donc ils se sont construits toute une série de représentations religieuses qui fait que leur personnalité est devenue celle qu'elle est.
Mmh.
Et donc, le cours de religion est amené à travailler ces représentations, leur permettant donc de percevoir si ces représentations sont... le terme correct, même si c'est un terme un peu compliqué, mais correct dans le sens où est-ce qu'elles répondent à ce que l'Église propose comme représentation religieuse, ou est-ce qu'elles sont en dehors de cela. Et si elles sont en dehors de cela, le rôle de l'enseignant est de corriger ces représentations, non pas pour rendre tous nos élèves croyants, même si, s'ils le sont, tant mieux, mais l'objectif n'est pas de rendre les élèves croyants, mais bien de leur donner des représentations religieuses telles que l'Église souhaite les transmettre.
Alors ça, c'est déjà très important, parce que ça nous éloigne d'une certaine façon, d'une forme, c'est ce que j'aime bien dans ce que vous dites, le but, c'est pas de faire une sorte de catéchisme, comme si tout le monde était vierge de tout et que n'avait jamais des préjugés sur la religion, etc.
Tout à fait, pas du tout. Donc on est bien dans un cours confessionnel, mais on n'est pas dans une forme de catéchèse.
Oui.
Et donc on souhaite former nos élèves à acquérir un certain esprit critique face à la religion, que ce soit la religion catholique, mais aussi les autres formes de croyances, les autres opinions qui peuvent se marquer aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Et on sait combien les réseaux sociaux amènent toute une série de réflexions par rapport à cela. Donc l'objectif, c'est de les former à un esprit critique par rapport à ces questions religieuses, à les aider à construire leur propre raisonnement, tout en ayant cette coloration catholique qui vient permettre d'étudier telle ou telle question qui sont plutôt des questions humaines et des questions que tous les jeunes se posent aujourd'hui.
Ça, vous réagissez comment ? Parce que c'est vrai que c'est intéressant. Est-ce que déjà la critique du préjugé, dire déjà aux élèves, vous savez, le christianisme, c'est pas ce que vous croyez, est-ce que c'est pas déjà un point très important ?
C'est très important. Alors, moi, ce qui me frappe, c'est que ce que vous dites pour finalement l'enseignement public en Belgique, d'une certaine manière, c'est ce que nous essayons de faire dans l'enseignement confessionnel ou catholique en France, parce que du côté de l'enseignement public en France, il y a tout de même une espèce de rejet a priori ou d'immunisation par rapport à la question religieuse. C'est pour ça que j'ai dû écrire ce petit livre Dieu à l'école, parce qu'en France, la question est tellement en amont de ce que vous dites, c'est-à-dire est-ce qu'on peut parler de Dieu à l'école, quoi. Voilà. Mmh. Pour beaucoup d'enseignants, la réponse est déjà non, quoi. Mmh. Même si on parle de Dieu comme d'un fait culturel, comme de l'ordre de l'histoire des religions, c'est déjà compliqué, quoi. Du coup, moi, je suis obligé de partir de très très bas en rappelant aux enseignants que si, par exemple, je sais pas, si on enlevait d'un rayonnage de philosophie tous les philosophes qui ont parlé de Dieu, il n'y aurait plus un seul livre. Donc Dieu fait partie de l'histoire de la pensée, Dieu n'est pas une propriété des religions, les grands philosophes, Platon, Aristote, ont pensé l'idée de Dieu, et même du monothéisme. Dieu traverse toute la littérature, et bien entendu toute l'histoire occidentale. Voilà. Donc rien que cela, qui sont des évidences, va poser un problème à un enseignant du public, et même au fond à un enseignant du privé, tellement cette espèce d'intimidation, alors je suis peut-être un peu polémique, pardon, mais cette espèce d'inhibition est profonde et intériorisée, quoi, voilà. Donc, il y a tout un travail de libération des esprits pour pouvoir dire qu'on peut parler à un jeune de la question de Dieu, sans prérequis, c'est-à-dire sans supposer qu'il adhère ou qu'il n'adhère pas, qu'il est croyant ou qu'il est incroyant, et sans même que le professeur ait à se positionner en tant que croyant ou non. Quoi, voilà. On en est là en France, quoi, donc c'est dire...
Mais est-ce qu'on n'en est pas là aussi en Belgique ? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de censure, quand même ? Un peu intérieure, enfin...
Alors, je ne parlerai pas de censure, parce que l'enseignant de religion en Belgique a quand même un certain rôle de témoin de la foi. Alors, on n'est pas dans du témoignage... comme on l'est en catéchèse, justement, où c'est vraiment « je vis ma foi comme cela et je t'invite à la vivre de la même manière
».
On est vraiment dans une posture où je t'enseigne toute une série d'éléments qui touchent aux questions religieuses, et je te dis « moi, je le vis par exemple comme cela, c'est une voie possible parmi d'autres, et à toi de choisir celle qui te convient ». Et donc on invite vraiment le jeune à construire son propre cheminement, à avancer au fur et à mesure de sa formation dans l'enseignement, pour arriver à construire ses propres représentations les plus correctes possibles du coup, pour que ça ait du sens pour lui. Et ça, c'est vraiment primordial dans ce que l'on enseigne à nos futurs enseignants, c'est de donner sens à leurs enseignements et de ne pas laisser les jeunes en se disant, ben voilà, tu dois étudier ceci qui concerne la religion ou cela. Là, on tombe plus dans effectivement de l'enseignement théorique de la religion. On va vraiment l'aider à étudier ce qui est théorique pour le faire vivre, pour qu'il puisse s'approprier en fait les éléments du religieux et se les approprier de la manière qui lui convient.
Alors, le danger, évidemment, c'est est-ce qu'on ne va pas avoir une préférence pour une religion ou alors certains vont vous dire, mais est-ce que ça ne va pas être un peu relativiste? C'est-à-dire, en gros, elles se valent toutes? J'imagine, c'est une question...
Ça, c'est une question primordiale, effectivement. Oui. Donc, effectivement, c'est toujours des travers dans lesquels on risque de tomber. C'est-à-dire, soit on tombe vraiment dans de la catéchèse en disant...
C'est la seule, c'est la vraie, c'est la bonne, celle-là
qu'il faut suivre. Ou alors, au contraire, dire... Je vous le dis, mais de toute façon, vous croyez tout ce que vous voulez. Mmh. Et finalement, effectivement, on ne peut pas imposer une foi ou des croyances à quelqu'un. La seule chose, c'est qu'on est dans un cours confessionnel, donc ça veut dire qu'on va quand même donner toute une série d'outils et de documents qui va permettre aux élèves de construire leur propre chemin, leur propre réflexion, qui seront des documents à la fois catholiques, à la fois d'autres confessions, non croyants, complètement de tout ordre, de tous horizons. Et c'est en travaillant tous ces documents que leur esprit critique va leur permettre de se construire et d'avancer. Alors, pour évidemment le jeune qui est croyant au départ, il va pouvoir faire mûrir sa foi, donc avancer sur son cheminement personnel et spirituel de croyants. Pour ceux qui ne le sont pas, eh bien, ils auront une meilleure connaissance de ce qu'est la religion catholique en l'occurrence, mais ça n'empêchera pas qu'ils puissent construire son propre chemin, même s'il n'est pas catholique.
Oui, moi je me retrouve bien dans tout ce que vous dites. Déjà, je souligne à un moment donné, vous avez parlé de la question du sens. Il me semble que derrière cette question de Dieu à l'école ou des religions, il y a vraiment plus profondément encore cette question du sens. C'est-à-dire que je pense que l'inhibition dont je parlais, elle va aussi jusque-là. C'est-à-dire qu'au fond, on entend aujourd'hui certains enseignants dire « je suis là pour donner des éléments de connaissance, mais je ne suis pas là pour agiter des grandes questions métaphysiques ou disons, je donne des savoir-faire, au fond. Et je suis un grand détracteur de la pédagogie des savoir-faire, parce qu'à mon avis, c'est une pédagogie qui oublie qu'on ne fait rien s'il n'y a pas une signification à ce que l'on fait. Donc déjà, voilà, j'apprécie que vous souligniez ça. Alors après, par rapport au débat d'un côté relativisme, de l'autre, disons, dogmatisme ou catéchèse déguisée, alors c'est une vraie question qui ne se pose pas dans l'enseignement public, parce que malheureusement, il n'y a pas d'enseignement en tant que tel de la question religieuse. Par contre, dans l'enseignement catholique, c'est une vraie question. Donc, moi, je donne des cours de culture religieuse, je pourrais dire de culture chrétienne, à des élèves de lycée, de première, de terminale, qui portent sur les grands écrivains et Dieu. En terminale, c'est une petite initiation à la théologie, la question de Dieu, voilà, l'athéisme, etc. Moi, ce que je remarque, peut-être plusieurs petites remarques, c'est qu'une attitude, disons, confessante ou dogmatique, de toute manière, est rejetée par les élèves. C'est-à-dire, ils ont, j'allais dire, cet esprit critique et ce soupçon qu'on chercherait à les endoctriner. Donc, de toute manière, c'est pas la bonne posture. À l'inverse, la posture relativiste qui consiste à dire, vous voyez, dans toutes les religions, il y a des fêtes, alors on fait des tableaux comparatifs. Rien de plus aplatissant, de plus décevant, de plus terne, quoi. Voilà. Donc, le fait que, par exemple, dans les cours que je donne, il y ait un positionnement, disons, chrétien, assumé, permet en fait le dialogue et la rencontre. C'est-à-dire que, en tant que chrétien, les autres religions m'interpellent. En tant que chrétien, par exemple, mettons la question du mal, de la souffrance, je suis forcé d'entendre la voix bouddhique, par exemple, et de confronter ce que dit le Christ, ce que dit Bouddha. Bon. De même, en terminale, on étudie, je suis prof de philo, donc on étudie la question de Dieu à travers la philosophie, à travers les religions. L'athéisme est une question qui est non seulement incontournable, mais qui fait du bien à être, comment dire, l'interpellation de l'athéisme est bonne à être entendue par un chrétien, parce qu'elle l'aide à purifier sa foi, à la, à la, comment dire, à la, à en éliminer tous les côtés rassurants, consolants, etc. Voilà, et donc parfois, en matière de provocation, je dis, vous savez, c'est chez les maristes qu'on parle, qu'on lit tous les textes, les grands textes de l'athéisme, intégralement, Marx, Nietzsche, Freud, etc. Voilà. Donc ça n'est pas parce qu'on assume un positionnement que l'on est dogmatique, j'allais dire bien au contraire, pourvu, et là évidemment ce qu'il y a sous-jacent peut-être à notre réflexion, c'est pourvu qu'on soit un croyant en dialogue avec la raison. Et donc c'est toute la question du rapport de la foi et de la raison. Voilà.
Oui, ça me fait réagir évidemment, parce que justement dans notre programme du cours de religion en Belgique, on a... Donc on a cette volonté de partir donc du vécu des élèves pour donner sens à l'apprentissage, avec un apport culturel et un apport chrétien qui se répondent en fait l'un à l'autre et qui vont amener à construire du sens pour l'élève suite aux questions qu'il s'est posées au départ. Donc évidemment tout cet apport est essentiel et surtout pas s'enfermer dans un cours uniquement de religion catholique, parce qu'on tomberait dans quelque chose qui n'est pas voulu, en tout cas dans le cadre du cours de religion chez nous.
Eh bien, vous parlez comme le grand Origène, 3e siècle de notre ère, qui effectivement disait à peu près la même chose dans sa lettre à Grégoire le Thaumaturge. Donc on écoute la déclaration d'Origène.
Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, éduquer avec Vanessa Patini, pédagogue de la religion, et Xavier Dufour, président des communions des éducateurs chrétiens.
Je voudrais te voir utiliser toutes les forces de ta belle intelligence pour le christianisme qui doit être ton suprême but. Pour y atteindre sûrement, je souhaite que tu empruntes à la philosophie grecque le cycle des connaissances, capable de servir d'introduction au christianisme, et les notions de géométrie et d'astronomie qui peuvent être utiles à l'explication des livres saints. Si bien que ce que les disciples des philosophes disent de la géométrie, de la musique, de la grammaire, de la rhétorique, de l'astronomie, quels sont les auxiliaires de la philosophie, nous puissions nous le dire de la philosophie elle-même à l'égard du christianisme.
Ah voilà, on a entendu Origène, hein, ça ne nous rajeunit pas, hein, on est au 3e siècle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça et justement, qu'est-ce que ce serait que, assez concrètement, hein, un cours qui éveillerait justement chrétiennement ou une éducation chrétienne ?
Alors, sans émettre d'avis, on peut déjà regarder l'histoire. Et en effet, les pédagogues chrétiens, très tôt, alors Origène l'incarne merveilleusement, ont toujours eu cette idée qu'une éducation chrétienne est une éducation libérale, une éducation qui est en quelque sorte symphonique, c'est-à-dire que toutes les disciplines doivent à la fois avoir leur autonomie propre. C'est-à-dire, par exemple, si je fais des mathématiques, je n'ai pas à faire des mathématiques chrétiennes. C'est des mathématiques, point. Bon, voilà. Mais en même temps, donc, elles ont leur autonomie. Ça, je crois que c'est un peu le dogme de l'incarnation qui prenant au sérieux tous les aspects de notre vie humaine, rend possible cette éclosion des disciplines scientifiques, littéraires, etc. Chacune a son autonomie et en même temps, il faut que tout dialogue. Donc, c'est pour ça que je parle d'une vision symphonique. C'est très important qu'il y ait des passerelles, qu'il y ait des dialogues possibles entre la littérature, les sciences, la philosophie, etc. De ce point de vue-là, le cours de théologie ou d'initiation chrétienne peut être, je crois, cette espèce de plateforme où peut circuler le sens à travers toutes ces disciplines, quoi.
Alors, en Belgique, il y a un programme. Donc, on sait ce que c'est qu'un cours d'éducation chrétienne.
Voilà, en Belgique, on a un programme donc avec toute une série de compétences en fait qui sont visées dans le cadre du cours et qui vont vraiment de tout ordre. Alors, on parlera à la fois de travail sur l'art chrétien ou avec un regard chrétien en tout cas. Par rapport à cela, on a un éveil à la philosophie, on a un éveil au dialogue interreligieux, interculturel également. Enfin voilà, on a vraiment toute une série de compétences qui sont mises en évidence. Mais je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez, si vous me permettez, quand vous parliez justement de cette, ce travail de plusieurs disciplines, etc. Le cours de religion en Belgique, on parle beaucoup du secondaire, mais en fait, il est déjà donné depuis,
c'est ça.
Depuis tout petit, depuis les classes maternelles, depuis le préscolaire. Donc, dès l'âge de 3 ans, on parle déjà de l'éveil religieux chez les tout-petits. Et c'est intéressant de voir combien... c'est beaucoup plus travaillé en interdisciplinarité.
Oui.
C'est-à-dire qu'en secondaire, on a vraiment un cours de religion qui est mis dans l'horaire à côté du cours de français, de maths, etc. Tandis qu'en maternelle et un petit peu en primaire aussi, on a généralement le même enseignant qui donne le cours de religion. Mmh. Et donc, il va travailler sur quelque chose de beaucoup plus interdisciplinaire. Et notamment, nous, à la haute école où je travaille en l'occurrence, on travaille beaucoup cette question-là dès le préscolaire. Mmh. Et donc, on va pouvoir raconter un texte biblique en faisant appel à des notions de conte, puisque les étudiants, enfin, nos étudiants, futurs enseignants, sont formés à raconter un conte. Ils vont utiliser les mêmes techniques pour raconter un texte biblique, mmh. où ils vont utiliser le matériel que les enfants auront peut-être fabriqué en art plastique pour pouvoir jouer avec ces personnages-là. Et donc, toute cette éducation religieuse est mise déjà, dès le plus jeune âge, en fait, dans les écoles, en évidence grâce à toutes les disciplines.
Parce que pour bien qu'on comprenne, en préscolaire ou en primaire, l'enseignant, enfin l'institutrice ou l'instituteur, il y en a qu'un. Donc il va devoir manifester à la fois ses compétences en français et ses compétences en religion. Donc voilà. Les instituteurs reçoivent un. Donc ça fait quelque chose de complètement intégré. En fait.
Alors ça fait quelque chose de complètement intégré, tout à fait. Donc c'est-à-dire que nous formons les instituteurs préscolaires ou les instituteurs primaires à donner le cours de religion comme toutes les autres disciplines. Ça fait partie d'un cours parmi les autres que l'enseignant peut donner à ses élèves. Mmh. Et donc, il peut arranger son cours un petit peu comme il l'entend. Il y a évidemment certaines choses à respecter en termes de règles, d'horaires, etc. Mais le cours de religion fait partie intégrante de la formation des élèves à travers la formation que nous donnons à nos enseignants.
Alors du coup, j'aimerais vous interroger, parce que ça me fait rêver, évidemment. quand en primaire, on parle des récits de création en particulier, est-ce que vous arrivez à faire ce travail, disons, de distinction des discours entre le discours, disons, théologique, biblique, et puis le discours scientifique, parce que les enfants, même très jeunes, ont dans l'esprit ce que dit la science, et bien souvent, en tout cas en France, on a cette idée a priori d'un conflit irréconciliable, quoi.
Alors oui, alors étant donné qu'ils ont cette approche religieuse depuis toujours, en fait, on fait assez rapidement cette distinction des discours, et les enfants eux-mêmes, dès très jeunes, en fait, se rendent compte qu'on parle d'un même sujet, mais avec deux approches différentes. Et donc c'est très chouette pour eux, parce qu'ils ont vraiment cette approche scientifique qui leur est donnée par le même enseignant, je rappelle, dans le cours de sciences et dans le cours de religion, l'aspect croyant. Maintenant, en secondaire, on continue toute cette réflexion et ce conflit science et foi. On le travaille énormément en secondaire aussi, parce que déjà en primaire, ils ont effectivement ce côté un peu critique face à la foi dû aux découvertes des sciences, etc. En secondaire, d'autant plus, puisque en plus, à l'âge de l'adolescence, ils sont d'autant plus critiques face à toutes ces questions religieuses qu'on peut leur apporter.
Oui, ils ont YouTube. Enfin, je veux dire, ils ont. Non, mais c'est ça aussi. On a longtemps quand même pensé la pédagogie en termes de d'isolement de l'école, qui serait une sorte de quelque chose de totalement protégé. Et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup. Enfin, il faut à la fois inculquer des idées justes, mais aussi se battre contre des idées fausses, alors que c'était pas si évident que ça il y a même 20 ans.
Oui, tout à fait. Et je pense que les discours se multiplient justement par les réseaux sociaux, par YouTube, par toute une série d'organes et dont on a très peu de prise, en fait, en tant qu'adulte, oui. Enseignant, parent, parfois.
C'est ça.
C'est difficile de savoir où ils vont chercher leurs informations. Et ça, c'est un vrai combat du quotidien, j'ai envie de dire, aussi en tant qu'enseignant.
Oui.
C'est de se poser la question, mais où as-tu été chercher ton information? Quelle est la source de cette information? Est-ce que ça a une valeur scientifique, même en termes de foi, on comprend ce que je veux dire.
Mm-hmm,
qu'est-ce que ça signifie, finalement, ce que tu as entendu par un tel ou une telle sur Internet, ou de tes copains, parce que parfois ça se répercute entre eux, etc. Et donc, c'est des dialogues qu'on doit vraiment instaurer avec eux, d'où l'importance, c'est ce que je disais en commençant, de développer avec eux surtout l'esprit critique, de se poser la question, est-ce que ce que j'entends va pouvoir donner sens à ma propre vie, à ma propre existence, à ce que je veux faire de ma vie ou pas ?
Cette idée d'une éducation parfaitement intégrée, enfin, je veux dire, à la limite, le cours de religion pouvant, ou plus exactement, l'éducation à la religion pouvant se faire par le prof de sport, par exemple, ça serait le rêve. L'idée que toutes les disciplines peuvent collaborer à cet enseignement.
Oui, la difficulté, c'est vrai que c'est l'éclatement des disciplines l'enfermement fréquent des enseignants dans leur discipline, avec une espèce de manque de recul épistémologique, c'est-à-dire au fond, ma discipline dit le vrai et l'unique vérité, cette formation à la pluralité des regards et à leur complémentarité. Et c'est vrai que c'est pour ça que je m'interrogeais sur la question des récits de création, parce que au fond, on voit chez bien des enseignants scientifiques cette espèce de malaise par rapport au discours plus théologique. Mais c'est vrai, y compris chez les chrétiens, c'est-à-dire qu'on peut trouver des professeurs de physique chrétiens pratiquants, mais qui ne sont absolument pas au clair en eux-mêmes sur la complémentarité des discours, quoi. Et voilà. Et donc ce sont en fait les enseignants qu'il faudrait former à cette complémentarité, quoi.
On va terminer sur cette question des enseignants. La question du contenu, est-ce qu'il y a un contenu, on a bien compris que c'était pas du catéchisme, mais est-ce qu'il y a quand même un contenu, j'allais dire, je présente ça un peu polémique, mais des vérités de foi, au terme du parcours, est-ce que le petit Belge a son credo, ou est-ce que c'est plus compliqué ?
C'est beaucoup plus compliqué que cela, en fait, parce qu'on travaille plus en termes de compétences.
Oui.
Qu'en termes de contenu. Alors, il est évident que tout au long de la formation en primaire, par exemple, tous les enfants qui suivent le cours de religion auront travaillé sur le credo pour savoir en quoi il consiste. Donc, il y a un peu des incontournables, j'ai envie de dire.
Bien sûr.
On travaille sur les évangiles, et qu'est-ce qu'un évangile et comment est-ce qu'on peut étudier cela. Mais on travaille beaucoup plus en termes de compétences. Et donc, une des compétences dans le secondaire, la première, qui pour moi est primordiale, c'est savoir lire la Bible.
Oui.
C'est comme ça que c'est intitulé. Et donc, au début, on va travailler sur qu'est-ce qu'une Bible, comment est-ce qu'on l'ouvre, qu'est-ce qu'on y trouve, etc. Et puis, on va petit à petit, au fil des années, travailler ses compétences pour, finalement, qu'il ait une lecture, je dirais exégétique, mais à leur niveau, évidemment, du texte biblique. Et donc, les compétences, en fait, on n'a pas de programme qui détermine des contenus par année, mais on a des compétences qui se vivent au fil de la formation. Mmh. Et donc, ces compétences vont se voir d'une année à l'autre, de manière différente, en développant un petit peu plus la compétence pour finalement aboutir à quelque chose qui ait du sens dans l'ensemble de leur formation.
Mmh. Vous, cette idée de contenu minimum, de socle minimum, ça vous parle ou finalement c'est pas si important que ça ?
Alors ça me paraît très important, au contraire,
oui.
Mais comme je vous le disais, dans l'enseignement public, c'est tout à fait hors sujet.
Mmh.
Et dans l'enseignement privé catholique, un certain nombre d'établissements proposent.
Parce qu'on montrera vos parcours.
Propose un programme. Alors, aucun programme n'est parfait. Et je suis d'accord qu'il y a des passages obligés vraiment fondamentaux. Et il me semble que la lecture biblique est quelque chose qu'il faut reprendre presque chaque année. Tellement, là encore, les préjugés scientistes fonctionnent, etc. La notion de genre littéraire, en particulier, alors je suis un professeur de lycée, hein, mais est vraiment très importante pour éclairer les élèves.
Mm-hmm.
Sinon, un discours scientifique, un discours théologique, ce sont forcément deux choses qui se contredisent, bon, etc. Donc voilà, des passages obligés, certainement. Et puis, alors, tout de même, le souci d'articuler une culture, disons une culture chrétienne, pour faire simple, avec la culture générale. Donc, l'importance de voir, par exemple, en classe de première, on peut étudier tel auteur par rapport à la question de Dieu. Par exemple, moi, j'étudie volontiers Camus, qui n'est pas tout à fait un père de l'Église.
Non.
Voilà, mais pour qui...
Il se pose beaucoup la question de Dieu.
Pour qui la question de Dieu est assez importante, pour ne pas dire parfois centrale.
Oui.
Et là, c'est intéressant de voir dans la peste comment la question du mal est le grand scandale sur lequel bute Camus, et d'ailleurs il réfère à saint Augustin, qu'il connaît bien. Voilà, donc c'est toutes ces passerelles, ces dialogues entre foi et culture qui font résonner culture profane et culture chrétienne, disons, pour faire simple.
On peut faire un petit inventaire, enfin, justement de ce socle. Il y a la Bible, ça c'est vraiment important, hein, la Bible.
Après, il y a à l'origine de tout.
Je suis d'accord avec vous, c'est pas moi qui vais vous contredire. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous semblent très importantes, enfin, juste pour voir un peu quel pourrait être un socle de. Voilà, de compétences.
J'ai envie de dire, il n'y a rien d'officialisé.
Bien sûr.
Disons que les grands thèmes traditionnels ou les grands sujets traditionnels qui sont travaillés, parce qu'on travaille, alors je vous ai dit qu'on travaillait beaucoup par compétences, mais une autre approche du programme, c'est de travailler par thématique.
Oui.
Et donc là aussi, c'est une autre porte d'entrée dans le programme. On va avoir effectivement la Bible, c'est certain. On va travailler sur les sacrements avec les plus jeunes aussi, de voir un petit peu en quoi ça consiste, les traditions chrétiennes, mm-hmm. comment est-ce que c'est mis en place, comment est-ce qu'on les vit, comment est-ce qu'on peut les vivre. Et là, on va faire appel à des témoins de l'Église, mm-hmm. C'est-à-dire des personnalités qui ont vécu par l'Église, pour l'Église, et qui vont être des exemples de comment vivre sa foi aujourd'hui, même si généralement les témoins sont d'il y a un certain temps.
Mais... oui, bien sûr. Non, mais c'est pour avoir des points de... Je vous propose qu'on fasse une deuxième pause. On va entendre, alors c'est un peu du discours officiel, pardonnez-moi, mais c'est le Concile Vatican II. Justement, c'est la Déclaration Gravissimum Educationis, donc c'est la Constitution, enfin c'est une déclaration, donc c'est la Déclaration sur l'éducation. C'est le préambule, c'est le paragraphe 1, donc elle date de 1965.
Il faut donc, en tenant compte du progrès des sciences psychologiques, pédagogiques, et didactique. Aider les enfants et les jeunes gens à développer harmonieusement leurs aptitudes physiques, morales, intellectuelles, acquérir graduellement un sens plus aigu de leurs responsabilités dans l'effort soutenu pour bien conduire leur vie personnelle et la conquête de la vraie liberté, en surmontant courageusement et généreusement tous les obstacles. Qu'ils bénéficient d'une éducation sexuelle à la fois positive et prudente au fur et à mesure qu'ils grandissent. De plus, qu'ils soient formés à la vie sociale, de telle sorte que, convenablement initiés aux techniques appropriées et indispensables, ils deviennent capables de s'insérer activement dans les groupes qui constituent la communauté humaine, de s'ouvrir au dialogue avec l'autre et d'apporter de bon cœur leur contribution à la réalisation du bien commun. De même, le Concile proclame le droit pour les enfants et les jeunes gens d'être incités à apprécier sainement les valeurs morales avec une conscience droite et à les embrasser dans une adhésion personnelle et, tout autant, à connaître et aimer Dieu plus parfaitement. Aussi demande-t-il instamment à tous ceux qui gouvernent les peuples ou dirige l'éducation, de faire en sorte que jamais la jeunesse ne soit privée de ce droit sacré. Il exhorte les fils de l'Église à travailler généreusement dans tous les secteurs de l'éducation, spécialement pour hâter la diffusion des bienfaits d'une éducation et d'une instruction convenable pour tous dans le monde entier.
Vous écoutez actuellement La Foi prise au mot, votre émission de formation chrétienne présentée par Régis Burnet. Aujourd'hui, éduquer avec Vanessa Patini, pédagogue de la religion, et Xavier Dufour, président des communions des éducateurs chrétiens.
Alors Vanessa Patini, je l'ai dit, donc vous êtes professeure de pédagogie du cours de religion, pédagogie de la religion. Comment est-ce qu'on forme des formateurs ? Est-ce qu'il faut aussi les former, j'allais dire, humainement, chrétiennement, etc. ? Parce que j'imagine que tous les instits, elles ne doivent pas toutes, enfin je dis elles, peut-être ils, elles doivent pas toutes être chrétiens. Enfin, je veux dire, alors comment est-ce qu'on fait ça ?
Alors, c'est effectivement une petite difficulté que nous avons en tant que formateurs des profs de religion. Donc, quand ce sont des instits... des instituteurs ou institutrices. C'est vrai qu'on a beaucoup peu de garçons.
C'est vrai. Enfin, c'est...
Quand c'est préscolaire ou primaire, donc c'est dans leur formation générale. Donc ils ne font pas le choix de devenir professeur de religion, si oui. ce n'est par l'école, enfin la haute école qu'ils choisissent, puisque comme dans le secondaire, on a des hautes écoles catholiques, mais d'autres écoles officielles qui eux ne forment pas au cours de religion.
Oui, une forme à une sorte de morale, hein, c'est ça, ou de philosophie.
Oui, il y a une certaine neutralité, oui. En tout cas. Mais donc, dans les hautes écoles catholiques comme la mienne, nous formons l'ensemble des instituteurs et institutrices au cours de religion. Ils ne sont pas eux-mêmes tous croyants. Mm-hmm. Il y en a même, pour certains, qui n'ont jamais eu de cours de religion avant d'arriver chez nous. Mm-hmm. Et donc, ça veut dire qu'on a une première étape à franchir, c'est de leur donner rapidement, parce qu'on n'a pas... énormément de temps pour le faire, leur donner rapidement quelques bases, quelques clés pour qu'eux-mêmes puissent se former un petit peu en autonomie, évidemment, pour donner alors, eux, le cours de religion. Mm-hmm. Quand c'est dans l'enseignement secondaire, c'est un petit peu différent, puisque là, ils font le choix d'aller enseigner le cours de religion, que ce soit le secondaire inférieur en haute école ou le secondaire supérieur à l'université, puisque c'est là que se fait cette formation-là. C'est un choix de leur part. Et donc, généralement, là, ils ont déjà des affinités pour la discipline. Ils ont généralement déjà des connaissances, ne fût-ce que par le secondaire où ils ont eu une formation, parfois par une formation dans leur propre paroisse, où ils se sont intégrés dans des groupes de travail, de recherche, etc. Mm-hmm. Et donc là aussi, il faut être attentif à ce que l'on veut donner comme enseignant par la suite, mm-hmm. à ce que l'on veut former comme enseignant, oui, plutôt, c'est de voir que ces futurs enseignants ne viennent... Donc ils ont une part de témoignage à donner auprès des élèves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais en même temps, ce n'est pas leur propre foi qui est à transmettre aux élèves. Et donc là, il faut aussi parfois un peu, je veux dire, les freiner dans leur envie de tout donner aux élèves, parce qu'il y a un certain... ils sont responsables de l'enseignement qu'ils donnent, et donc il doit y avoir une certaine justesse par rapport au message de l'Église, puisqu'ils sont envoyés comme... ils sont justement envoyés par l'Église.
Et vous leur conseillez quoi ? De la prudence, de l'humilité. Ce serait quoi la vertu pédagogique principale ? Parce que je crois que la pédagogie, c'est aussi de la vertu. Enfin, il y a de la vertu. C'est quoi la vertu pédagogique principale ?
Alors, je dirais d'abord d'être vrai.
Oui.
Être vrai dans leur propre témoignage, avec cet esprit critique qu'on demande qu'ils donnent aux élèves, mm-hmm. mais de pouvoir eux-mêmes avoir une autocritique sur leur propre témoignage, leur propre conviction, en principe qui correspondent à ce qu'on souhaite, mm-hmm. À ce qu'on souhaite qu'ils enseignent, oui, aux élèves. Mais c'est vraiment d'être vrai, d'être, comme vous disiez, humble aussi face aux situations de chacun, puisqu'ils vont s'adresser à des publics très divers, et de se positionner tout en étant respectueux de l'ensemble des élèves qui sont devant eux. Que ce soit des élèves croyants, d'autres confessions ou non-croyants. On n'est pas là pour brusquer les élèves, on est vraiment là pour leur amener quelque chose de plus qui va leur permettre de développer leur propre spiritualité ou croyance. Mmh.
Vous, comment, de votre point de vue, vous verriez les choses ?
C'est une fois encore, tout ce que vous dites pour l'enseignement public en Belgique me fait rêver pour l'enseignement catholique en France. C'est-à-dire que même dans le cadre de l'enseignement catholique, au fond, les lieux de formation n'investissent pas tellement dans la question de la culture religieuse. Alors qu'en fait, un enseignant qui choisit l'enseignement catholique devrait au moins avoir une toute petite formation minimale, justement en Bible, dans les éléments du credo, etc. Bon, malheureusement, ça a lieu que de manière très, très périphérique. Du coup, ce sont au sein des établissements catholiques, hein, qu'il faut prendre en charge cette formation. Et ça n'est pas très simple. Ça n'est pas très simple. Voilà. Voilà, alors donc nous organisons des formations pour les enseignants qui dispenseront le cours de culture religieuse. Et d'ailleurs, c'est peut-être une des choses importantes que je voulais souligner, c'est que la vraie difficulté de ces enseignements n'est jamais en l'élève, mais vraiment dans les enseignants, à travers toutes ces intimidations, ces inhibitions, difficultés, entre celui pour qui la question spirituelle est de l'ordre tellement du secret de la conscience qu'on ne peut pas en parler, et puis ceux qui, au contraire, convertis de fraîche date, font une espèce de catastrophe, aurait tendance à faire une espèce de catéchèse qui ne serait plus très juste, mm-hmm. par rapport à la liberté de conscience de l'élève, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais malgré tout, le nœud, pour moi, c'est quand même celui de la connaissance. C'est-à-dire qu'au fond, bien des inhibitions tombent lorsqu'on accède à un discours, je dirais, intelligent sur la Bible, sur l'histoire de l'Église. Ou, voilà.
Je reconnais hein, dans vos propos cette question de l'enseignant chrétien. Alors, c'est vrai que nous, on a les professeurs de religion qui ont un statut particulier dans cette question-là. Mais dans nos écoles catholiques, parce que la plupart de nos écoles sont catholiques, les enseignants de toutes les disciplines sont amenés à travailler sur un projet pédagogique catholique. Et donc, théoriquement, en tout cas, ils ont aussi un petit peu cette nécessité de témoigner d'une certaine foi, même si c'est pas dans leur cours, mais dans leur manière d'être, dans l'encadrement qu'ils font des élèves, etc. Toutes ces valeurs chrétiennes, ils les partagent pour les transmettre aux élèves de manière plus indirecte alors que le cours de religion. Mmh. Mais on se retrouve aussi avec certains enseignants parfois qui ne partagent pas tout à fait la foi et donc il y a certains moments où ça complique un peu les choses. Mais dans l'idéal en tout cas, on souhaite que cette transmission des valeurs chrétiennes se fasse à travers l'ensemble des cours, à travers le projet pédagogique de l'établissement. Mmh.
C'est ça le but de l'éducation, c'est les valeurs. Globalement, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que l'Église se préoccupe encore d'éducation? Enfin, on pourrait fermer toutes les écoles catholiques. En Belgique, ça serait une catastrophe.
Ah, ce serait compliqué.
Ça serait très, très compliqué. En France aussi, ça serait assez compliqué. Mais c'est transmettre quand même ces valeurs-là?
Je pense que la base, c'est de transmettre des valeurs. Alors, les valeurs chrétiennes peuvent être partagées par tous, si ce n'est qu'on y met une coloration particulière des évangiles.
Oui.
Donc, pour moi, oui, le principal, c'est de partager des valeurs. Maintenant, je pense qu'il y a un intérêt aussi de l'Église, enfin, pour l'Église, de participer à cette éducation, c'est de pouvoir s'interroger sur elle-même, parce que quand on parle de son propre message, on doit s'interroger si ce message est audible, écoutable par ceux à qui on s'adresse, et les jeunes sont les premiers critiques par rapport à cela. Donc je pense que c'est très intéressant pour l'Église d'avoir un lieu comme celui de l'école pour dire les choses, parce que ça leur permet de reformuler ou de reconcentrer leur essentiel sur certains points.
Oui, j'aime bien cette idée de lieu de prise avec la réalité et puis avec la nouvelle génération qui vient, qui est là et qui est pas la même que celle qui l'a précédée, etc.
Oui, et puis je pense que c'est particulier parce que autant il y a quelques dizaines d'années maintenant, l'Église pouvait s'adresser aux jeunes à travers l'Église, à travers les parents ou à travers l'école. Aujourd'hui, les églises, on le sait, sont de plus en plus vides. Les parents ont perdu un petit peu ce rôle d'éducateurs chrétiens face à leurs enfants. Même pour des parents chrétiens, parfois, ils sont eux-mêmes démunis, ils ne savent pas comment faire. Et donc, il reste l'école. Mmh. Et donc, si l'église n'utilise plus ce lieu-là pour se dire aux jeunes, à un moment donné, on craint que ça ne disparaisse vraiment.
Mmh. Alors, pour une fois, je ne serais pas tout à fait d'accord sur le fait de centrer ou peut-être de réduire ce que l'Église a apporté à l'éducation, à la notion de valeur, parce qu'il me semble que de fait les valeurs peuvent être tout à fait partagées par d'autres, et que l'Église a quelque chose quand même de plus spécifique, c'est-à-dire un regard global sur la personne comme aimée de Dieu, désirée par Dieu et promise à la vie en plénitude. Et ça, je crois que ça dépasse le simple ordre, disons, des valeurs morales, qui évidemment est très important. Et c'est un ordre où se vérifie aussi l'anthropologie chrétienne. Et alors, si je devais dire qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans une éducation chrétienne, moi, je dirais deux choses. Il y a une anthropologie qui ne va plus du tout de soi, mais qui est l'anthropologie, disons, si je la mets à la sauce biblique, qui donne corps, âme, esprit, c'est-à-dire que l'être humain est un projet de Dieu et s'accomplit en accueillant cette source d'amour qu'est Dieu, et à une destinée surnaturelle. Et je pense que c'est pas tout à fait pareil, même un professeur de discipline profane, de regarder un élève comme quelqu'un qui a une destinée surnaturelle, éternelle, ou de le regarder comme un être humain né par hasard dans les hasards de l'évolution
et qui terminera... un consommateur du système scolaire.
un singe évolué ou un consommateur formaté, disons. Donc une anthropologie bien spécifique et qui peut-être apparaîtra de plus en plus comme prophétique, surtout qu'elle se heurte de plein fouet à des anthropologies contemporaines de la déconstruction, etc., qui sont de plus en plus prégnantes dans l'école. On le voit en tout cas en France. Et puis je dirais, il y a ceux qui... Alors, moi, je suis le premier à dire que j'ai d'excellents collègues incroyants et qui éduquent aussi bien, voire mieux que moi, et qui payent de leur personne et qui sont de véritables spirituels. Et aussi des croyants qui peuvent être maladroits. Bon, il y a aucun problème avec ça. Néanmoins, il me semble que l'espérance chrétienne, qui nous dit finalement tu n'es pas fait pour la mort mais pour la vie, de plus en plus apparaîtra comme le salut dans une culture qui tout de même tend vraiment à désespérer. Quoi. Moi, je suis tout de même frappé. Alors, il y a le contexte actuel du Covid, oui. Il y a le contexte, il y a l'angoisse écologique,
la collapsologie,
etc.
Oui.
Mais on est vraiment sorti de la religion du progrès, indéfini, etc., pour rentrer dans une espèce de religion de la régression, hein, c'est-à-dire du no future. Faisons pas d'enfants parce que le monde ne leur offrira pas d'avenir. Et moi, je pense que quelque part, la foi chrétienne n'a jamais été aussi pertinente en disant que l'homme est fait pour l'absolu, que l'homme est fait pour Dieu, est fait pour la vie en plénitude. Et je pense qu'à un moment donné, il faudra que les écoles catholiques se ressourcent, reviennent à cette source, quoi. Voilà. Aujourd'hui, la question, c'est vraiment, est-ce qu'il faut mettre des enfants au monde? Et la question de l'éducation, c'est la même. C'est pourquoi on éduque. Est-ce que ça vaut le coup d'éduquer, quoi? Voilà. Et moi, j'aime bien citer Gabriel Marcel qui dit « Aimer quelqu'un, c'est lui dire « tu ne mourras pas ». Peut-être que l'éducateur chrétien est quelqu'un qui, implicitement, le plus souvent, fait comprendre à un enfant « tu ne mourras pas ». Toi, tu ne mourras pas, quoi. Tu es fait pour la vie, quoi. Voilà.
Vous êtes d'accord?
Je suis d'accord, oui, ça fait. Et ça me faisait penser justement à cette question dans l'introduction où vous parliez de l'implicite et de l'explicite.
Oui.
Qui pour moi doit être l'explicite, mais pleinement. Il ne faut pas se cacher derrière. Alors, effectivement, j'ai utilisé le terme de valeur, mais j'ai quand même rajouté la coloration chrétienne.
Oui. Et c'est moi qui vous ai proposé ce mot de valeur.
Et je pense qu'effectivement, on ne doit pas se cacher derrière des termes un peu vagues, etc. Il faut vraiment oser affirmer son identité d'école catholique ou d'enseignant catholique. Pour moi, c'est essentiel de ne pas essayer de plaire à tout le monde. Voilà, on a une identité, il ne faut pas la cacher.
Merci beaucoup. Alors, vous parliez, Xavier Dufour, de ces livres que vous avez... alors, il y en a plusieurs.
Coordonnées.
Coordonnées, donc voilà, en voilà un. Hein, raison de croire, la foi chrétienne en débat. C'est en gros un manuel de culture chrétienne, quoi.
Enfin, c'est
le manuel, comme il y a des manuels de français.
Exactement,
ou manuels de...
Exactement.
Voilà. Et puis, vous nous avez aussi amené Dieu à l'école, plaidoyer pour un enseignement des religions. Donc là, c'est
notamment pour l'enseignement public.
Vous en avez, voilà. C'est un sujet qu'on a aussi abordé. Et puis, vous venez de faire paraître Enseignant et chrétien, une vocation. C'est aux éditions de l'Emmanuel. Et donc, ça, c'est aux éditions du CERF. Merci vraiment, merci d'avoir fait le voyage depuis la Belgique, merci d'être venu pour nous parler de l'éducation. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.kto.tv.com.